Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Des dizaines de Libanais ont manifesté hier soir à Beyrouth. Ils criaient leur colère deux jours après l'explosion qui a fait au moins 149 morts. Le gouvernement est pointé du doigt pour son incompétence. Emmanuel Macron, en visite sur place, appelle au changement, tandis que les Libanais cherchent toujours leurs proches dans les hôpitaux. Reportage à suivre.
Alassane Ouattara est candidat à un troisième mandat. L'actuel président de la Côte d'Ivoire l'a annoncé hier dans la soirée. Ses opposants estiment qu'il n'en a pas le droit en vertu de la Constitution. Ils redoutent une nouvelle crise politique.
Peut-on vraiment se faire dépister sans ordonnance pour la Covid-19? France Culture a tenté l'expérience dans les Yvelines et les résultats sont peu concluants.
Les assurances sont très sollicitées depuis le confinement. De nombreuses entreprises sont en difficulté. Zoom sur AXA, très critiqué par les restaurateurs.
Leur activité a disparu quand la crise sanitaire est arrivée. Les guides conférenciers en subissent également les conséquences. Ils demandent la protection des pouvoirs publics.
500 000 mètres cubes de glace sont sur le point de s'effondrer. Le glacier de Plan-Pincieux dans la partie italienne du massif du Mont Blanc inquiète les experts.
Et nous y reviendrons avec notre correspondant en Italie. Deux jours après l'explosion à Beyrouth, l'enquête se poursuit. Au moins 16 fonctionnaires ont été placés en détention. Certains sont des responsables du conseil d'administration du port de la capitale libanaise, d'autres de l'administration des douanes. Il y a aussi des responsables des travaux d'entretien, des ouvriers qui ont œuvré dans ce hangar où étaient entreposées des tonnes de nitrate d'ammonium. L'explosion a fait au moins 149 morts et 5000 blessés. Les recherches continuent pour sauver d'éventuels survivants. Ziad El-Khoury cherchait sa femme, il l'a retrouvée grièvement blessée et hospitalisée. Notre correspondante Laure Stéphan l'a rencontrée.
Il a fallu 14 heures à Ziad El-Khoury pour retrouver sa femme Rita après avoir appris qu'elle avait été blessée par le souffle de l'explosion. Son épouse a été transportée sur le champ inconsciente à l'hôpital Hôtel Dieu. Elle est aux soins intensifs.
Elle souffre d'un trauma crânien et aussi d'une hémorragie cérébrale. Elle est toujours dans un état critique. On espère que dans les 48 heures qu'elle réagisse dans la bande direction.
Parce que Rita n'avait pas de papier d'identité sur elle, elle a été enregistrée comme patiente anonyme. Il a fallu l'identifier.
Son visage est complètement méconnaissable, mais j'ai pu l'identifier suite de quelques, comme on dit, des graines de beauté, etc. J'étais soulagé parce que je l'ai retrouvée. Et après, ça m'a pris quelques minutes pour aussi réaliser que elle ne va pas bien.
Des amis, des proches viennent entourer Ziad El-Khoury. Lui cherche aussi à épauler ses enfants, adolescents. Il est empli de colère contre les dirigeants politiques après le drame.
Ils doivent comprendre qu'on a vraiment, on ne veut plus d'eux. Et je ne sais pas comment on doit faire pour les catapulter en dehors du Liban.
Pour lui, seule une enquête internationale permettra de faire la lumière sur ce qui s'est passé mardi.
Et des dizaines de Libanais en colère ont manifesté hier soir près du Parlement à Beyrouth, pointant du doigt l'incompétence et la corruption de leurs dirigeants. Les forces de l'ordre les ont dispersés avec du gaz lacrymogène. Dans la même soirée, Emmanuel Macron était en visite à Beyrouth. Le président français a appelé à un profond changement, expliquant que les trois semaines à venir seront décisives. Écoutez.
J'espère qu'avec le temps, le peuple libanais trouvera la capacité de faire émerger une offre politique qui correspond à ses aspirations, les réformes qui vont avec. Ça n'est pas à moi de les prescrire. Mais ce dont je viens de vous parler, ce sont des réformes vitales de court terme. S'il n'y a pas cet audit qui est fait sur la Banque centrale, le lancement véritablement avec le Fonds mondial international de ce travail, dans quelques mois, il n'y aura plus d'importation. Dans quelques mois, sans doute, le fioul manquera pour éclairer, la nourriture manquera. Et ça, ce sera la responsabilité de ceux qui ont refusé aujourd'hui de faire ce travail. Il peut encore être fait maintenant. La France aide, elle est là, elle continuera d'aider. Nous avons organisé des conférences internationales, on a levé de l'argent, on continuera de le faire. Mais on ne peut le faire que si les dirigeants libanais prennent leurs responsabilités pour nous permettre de les aider pleinement et d'aider pleinement les Libanaises et les Libanais.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial Nathanaël Charbonnier. Emmanuel Macron a aussi réclamé une enquête internationale. Il sera de retour le 1er septembre et réfute les accusations d'ingérence qui le visent. Sa décision était très attendue. Alassane Ouattara a mis fin hier au suspense. Le président ivoirien a annoncé qu'il serait candidat à un troisième mandat alors qu'il avait laissé entendre le contraire. Il a invoqué un cas de force majeure et estime que la Constitution l'y autorise. Il a pris la parole à Abidjan pendant son allocution traditionnelle à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Olivia Macadré y était pour France Culture.
Que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices, soient compromis m'amène à reconsidérer ma position. face à ce cas de force majeure.
Des scènes de liesse, des chants, des embrassades. Dans le quartier des Deux Plateaux à Abidjan, près de 200 personnes s'étaient réunies devant l'écran géant installé par le parti présidentiel, le RHDP, pour suivre la locution d'Alassane Ouattara. À l'annonce de sa candidature, Eugénie ne peut cacher son émotion.
Ça me va droit au cœur, je suis content, je vais battre la campagne pour M. Ouattara.
Privé de candidat depuis la mort d'Amadougon Koulibaly en juillet dernier, les militants du RHDP se disent soulagés.
C'était le choix qu'on voulait en fait. On voulait qu'il se présente une troisième fois. Vraiment, on est content pour ça.
Beaucoup sont lucides aussi. S'ils soutiennent cette décision, ils savent également qu'elle n'est pas la plus favorable au pays. Entre les lignes, on devine la peur d'une crise post-électorale comme en 2010-2011 et d'un combat des vieux éléphants, Henri Conan Bédier, Alassane Ouattara et éventuellement Laurent Gbagbo.
Maintenant, le grand bémol, c'est quoi? C'est qu'on risque de se retrouver avec les trois. Comment je pourrais appeler les auteurs de la crise post-électorale de 2011. Donc, ce serait un peu tragique, parce qu'on risque de revivre les mêmes événements qui sont produits.
De son côté, l'opposition et plusieurs mouvements de la société civile dénoncent un recul inquiétant des acquis démocratiques avec cette candidature. Ils assurent que la Constitution interdit à Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat, un argument réfuté par ce dernier.
Et l'élection présidentielle ivoirienne aura lieu le 31 octobre. Donald Trump s'attaque une fois de plus à TikTok. Il l'accuse d'espionner ses utilisateurs américains pour le compte de Pékin. Toute transaction avec la maison mère chinoise du réseau social sera interdite d'ici 45 jours. Le président des États-Unis a signé un décret en ce sens hier. Un groupe américain peut racheter TikTok, mais avant le 15 septembre. Microsoft mène en ce moment des négociations à marche forcée. La Covid-19 a tué plus de 2000 personnes au cours des dernières 24 heures aux États-Unis. Ce nombre n'avait pas été atteint en 3 mois. Les autorités ont recensé près de 160 000 morts dans le pays depuis le début de la pandémie.
France Culture à 8h07, Margot Delpierre. En France, 1600 nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés hier.
Et le nombre de personnes diagnostiquées positives a augmenté de plus de 30% en une semaine. C'est pourquoi un nouveau conseil de défense sur la Covid-19 sera organisé la semaine prochaine. Le gouvernement souhaitait réaliser 700 000 tests par semaine. L'objectif n'est pas atteint. Alors pour faciliter la procédure, il est désormais possible de se faire dépister gratuitement et sans prescription médicale. Un test PCR dans le nez pour savoir si vous êtes ou non porteur du virus. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Tara Schlegel, vous avez tenté de vous faire dépister rapidement dans les Yvelines.
Dans le grand hôpital de ma ville, voici la réponse.
Non, c'est avec ordonnance, c'est par rendez-vous aussi. Et la prochaine date que j'ai, c'est le 11 août. Et par contre, les résultats, c'est une semaine après.
D'accord.
C'est mardi prochain et les résultats, ça fera le mardi d'après.
Ce qui m'étonne juste un tout petit peu, c'est que sur tous les sites du ministère et de la Sécurité sociale, on voit que c'est sans ordonnance.
Oui, alors que chez nous, c'est autre chose. Nous, c'est avec rendez-vous et avec ordonnance. Moi, j'applique les ordres, hein. Donc je suis juste là pour appliquer les ordres de l'hôpital.
Pour un dépistage urgent, c'est plutôt raté. Autre option, la grande clinique privée du coin, là, c'est un peu différent.
Non, il n'y a plus besoin d'ordonnance. Pour prendre rendez-vous sur Doctolib, vous trouvez un créneau et puis venez nous voir. Mais là, pour l'instant, on est au complet, pas avant la semaine du 17. Hein.
Bref, pas d'ordonnance, mais il faut attendre le 18 août pour des résultats. J'élargis donc ma recherche à la ville voisine. 87 000 habitants et seulement 3 lieux de dépistage recensés sur le site du ministère. Le premier, injoignable, pas étonnant, c'était un fax. Le second doit décliner ma demande de test PCR.
Non, je sais plus, là, on est c'est complet. Jusqu'au moins au 12 août, et c'est pas possible.
L'homme est désolé, depuis que le test est en accès libre, son laboratoire est débordé. Reste le dernier, qui sera le bon, à condition de pouvoir scanner son ordonnance. Le rendez-vous est possible en 24 heures, c'est un laboratoire qui pratique le drive.
Vous vous garez devant le labo, vous restez dans votre voiture, ainsi l'infirmière va sortir pour la réalisation du test. Voilà.
Ici, pas besoin d'entrer dans les locaux du laboratoire, pas de risque de contaminer les autres. Alors je résume, sur 5 possibilités, un seul labo pourra délivrer des résultats en 48 heures, mais il fallait bien une ordonnance.
Tara Schlegel. Pendant ce temps, les assurances font leur compte. Ces derniers mois, AXA a concentré la grogne des restaurateurs. Ils accusent les assureurs de ne pas indemniser les pertes liées à la pandémie et au confinement. Le secteur subit la pression du gouvernement et des consommateurs. On fait le point avec Anne-Laure Jumet.
Pour les restaurateurs, il y a eu quelques avancées sous la pression de la justice et de l'opinion. Après avoir perdu une première manche face à un restaurateur parisien, un jugement très médiatisé, le groupe AXA a ainsi passé des accords avec plusieurs centaines de professionnels pour indemniser une partie de leurs pertes, une partie substantielle, c'est le mot utilisé par le groupe. À ce jour, 900 restaurateurs sont concernés, mais on parle là de contrats qui n'étaient pas assez clairs, ce qui représente une minorité. D'autres procès sont d'ailleurs en cours, contre AXA ou d'autres compagnies d'assurance. Plus largement, le secteur a été sommé par le gouvernement de prendre des engagements face à cette crise. Les compagnies ont ainsi versé 400 millions d'euros au fonds de solidarité destiné aux très petites entreprises. Et au total, la profession a précisé avoir dégagé 3,8 milliards d'euros sous forme d'aide ou d'investissement. Les assureurs également surveillés de très près par les consommateurs. L'association UFC Que Choisir a lancé l'offensive sur les contrats automobiles. Il y a eu pendant le confinement une diminution de la sinistralité. Il faut donc, dit-elle, que cela se traduise par des baisses de tarifs. Et la mobilisation commence à porter ses fruits selon UFC qui note des gestes chez les mutualistes. Cela dit, pour la plupart des assureurs, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. On fera le point à la fin de l'année, précise la fédération du secteur. Si la sinistralité automobile diminue effectivement sur un an, il y aura alors des baisses de tarifs en 2021.
Parmi les nombreuses professions touchées par les crises sanitaires et économiques, il y a les guides conférenciers inquiets pour leur avenir. Ils dépendent du tourisme et de la culture, deux secteurs en difficulté et faute de clients se retrouvent sans activité, si bien que certains envisagent de se reconvertir. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, ils réclament au pouvoir public reconnaissance et protection. Le reportage de Catherine Pétillon.
Les prochaines visites que j'organise, c'est sur le street art à Montmartre et une visite Montmartre insolite.
À la Cachette de Paris, le café qu'il a ouvert avec deux associés près de Montmartre, Théo Abramovitch propose des visites guidées thématiques à travers Paris. Le confinement est arrivé alors que commençait pour lui la saison où il gagne le gros de ses revenus. Depuis, il a certes repris les visites, mais les clients restent très rares.
J'ai un public très divers, de gens d'âge très différents d'habitude. Et là, les personnes âgées ne viennent presque plus. Les groupes scolaires ont annulé toutes les visites qui étaient prévues, évidemment. Et il n'y a plus aucun touriste étranger. Donc mes visites en anglais, j'en ai fait aucune depuis le mois de mars. Alors que d'habitude, j'en ai presque tous les jours en juillet, août. J'ai pas de revenus du tout pour le moment. Et on a reçu le fonds de solidarité pour l'entreprise. Mais en fait, ça a fait 1500 euros, ce qui paye même pas le loyer pour le café.
Qu'ils fassent découvrir des villes, des monuments ou encore des collections de musées, la plupart des 10 000 guides conférenciers n'ont aujourd'hui plus d'activité ou alors très réduite. À cela s'ajoute la grande diversité et la précarité de leur statut. Certains sont salariés en CDD, d'autres en CDD d'usage, beaucoup sont auto-entrepreneurs. Faute d'aide spécifique et pour se faire entendre, ils se sont donc rassemblés en collectif.
Les aides ne seront pas les mêmes pour tout le monde, mais il y a besoin d'aide fondamentalement pour tout le monde. C'est pour ça qu'on s'est mobilisés ensemble. On a le sentiment d'être sous les radars, d'être passé presque inaperçu, qu'on nous a complètement oublié. Le gouvernement a mis 18 milliards d'euros pour le plan tourisme et il y en a eu zéro pour les guides conférenciers. On se sent complètement abandonné aujourd'hui.
Les guides conférenciers demandent des aides prolongées ainsi que l'instauration d'une année blanche comme pour les intermittents du spectacle, car pour beaucoup, l'activité ne reprendra vraiment qu'au printemps prochain.
Catherine Pétillon. Une prise d'otage s'est terminée sans faire de blessés hier soir au Havre. Un homme a retenu pendant plusieurs heures 7 employés d'une agence bancaire. Il s'est rendu dans la soirée. Il a des antécédents judiciaires et psychiatriques. Le philosophe Bernard Stiegler est mort hier à 68 ans. Le Collège international de philosophie déplore la disparition d'une voix singulière et forte. Bernard Stiegler avait construit son esprit en dehors du parcours académique. Sa philosophie et sa vie sont racontées en 5 épisodes d'À voix nue sur notre site internet franceculture.fr. Le glacier Plan-Pincieux dans les Alpes menace de s'effondrer. Il se trouve dans la partie italienne du massif du Mont-Blanc et les experts estiment que la situation est très risquée pour les 3 prochains jours. 70 personnes, dont une majorité de touristes, ont été évacuées. On parle ici d'un immense morceau, Bruce de Galzin.
C'est l'équivalent du Duomo de Milan qui pourrait s'effondrer. 500 000 mètres cubes de glace menacent de se détacher du glacier de Plan-Pincieux sous les Grandes Jorasses. En septembre dernier déjà, le glacier avait tendance à fondre plus que d'habitude et l'alerte était lancée. Mais le scénario a changé. Ce n'est plus le mouvement du glacier qui alarme les experts, mais les variations de température. Le choc thermique, chaud-froid, inquiète, car il fragilise cette partie du glacier qui risque un effondrement immédiat, disent-ils, et l'eau qui coule en dessous pourrait agir comme un toboggan. Une situation bien sûr dangereuse. Les autorités ont donc pris les précautions nécessaires en évacuant la zone rouge, celle qui sera directement touchée si une partie du glacier s'effondre, et la zone jaune, celle sur laquelle le nuage de particules soulevé par l'effondrement pourrait tomber. Pour les experts, voilà une fois encore la preuve du danger du réchauffement climatique.
45 départements français sont en vigilance orange canicule du sud-ouest Hauts-de-France. Le pic de chaleur va durer plusieurs jours. Cet après-midi, il fera jusqu'à 37 degrés à Paris, 40 à 42 degrés localement. Il fera particulièrement chaud des Pays de la Loire, au Poitou-Charentes, en Aquitaine et dans une grande partie de l'Occitanie, Chloé.
Merci Margot Delpierre.